journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal des auditeurs, bienvenue dans votre émission, l'émission où vous avez la parole. Pour intervenir en direct, composez dès maintenant 01 55 07 58 00. Vous pouvez également nous envoyer des messages sur Facebook ou sur Twitter avec le hashtag JDA. Je vous invite d'ailleurs à aller liker nos pages, la page Radio Africa numéro 1, les pages des différentes émissions, les comptes des différentes émissions et les comptes de la radio sur Twitter. Je crois que l'identifiant c'est @radio_africa1. On a besoin de votre soutien et comme ça vous serez informé de tout la qualité de la radio, notamment des jeux concours et des petites choses que nous vous faisons gagner. Voilà, il fallait le dire, c'est dit. Aujourd'hui, c'est la libre antenne d'ailleurs, c'est vous qui choisissez les sujets sur lesquels vous souhaitez vous exprimer. Je crois que nous reviendrons sur le scandale Windrush qui touche le Royaume-Uni. Nous parlons un peu du Togo, mais n'hésitez pas, venez nous parler du sujet de votre choix. Venez par exemple nous parler d'un sujet qu'on n'a pas évoqué sur l'antenne. Je rappelle le numéro pour intervenir, 01 55 07 58 00. Avant de recueillir vos commentaires en direct, action le répondeur, comme de tradition, pour écouter vos messages.
Le JDA, c'est sur Africa.
Bonjour Africa, bonjour les Africains. J'aimerais parler à Idriss, qui a parlé très bien pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire, que le président Alassane Dramane Ouattara apprécie son discours. Je pense que Idriss, il est déconnecté de la Côte d'Ivoire. Il ne connaît pas la réalité de la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à se renseigner. Les personnes qui sont exilées au Ghana, ils vont arriver en Côte d'Ivoire, ils vont manger quoi, ils vont vivre de quoi. C'est ça, il agit. Régler le problème d'emploi. Il dit, il faut parler d'emploi à ton président d'abord. Il n'y a pas d'emploi pour les jeunes, il n'y a pas. Renseignez-vous très bien, Idriss. Merci, Africa. Au revoir.
Oui, les amis du JBA. Donc, mon premier message est sur la Ligue. La Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Bien, la Ligue des Champions. Vous voyez, cette année encore, l'UEFA va donner la Coupe au Real Madrid. Cette année encore. Comme presque tous les ans, l'UEFA donne la Coupe au club espagnol. Ce n'est pas Barcelone, c'est Real ou Atlético Madrid. Oui, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Les gens dépensent beaucoup d'argent. Et voilà que l'UEFA, ouais, les membres de l'UEFA, ouais, même à la tête de Tini, voilà, il est dans une seule affaire.
Bonjour Africa numéro 1. J'appelle pour le sujet du Sénégal, avec tout ce qui se passe au pays. La corruption, l'argent coule. Gogo, les terres, ils sont partagés. De Abdoulaye jusqu'à Matissal. De Matissal, c'est encore pire. Et nous, nos frères chrétiens, on ne les entend pas là-dedans. Un grand bravo à vous. Continuez comme ça. Et vous ne rentrez, il ne faut pas vous rentrer dans ce système. Et encore, merci beaucoup, nos frères chrétiens au Sénégal. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, Inch'Allah. Merci beaucoup, Africa numéro 1.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Un grand merci à Mandile Pofou qui les a montés et sélectionnés. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, c'est la libre antenne. Vous pouvez vous exprimer sur les sujets de votre choix. Composez dès maintenant le 01 55 07 58 00 01 55 07 58 00. Dans quelques instants, on écoutera Nicolas qui nous parlera du Togo. On commence tout de suite avec Marcus qui n'a pas pu intervenir hier. Hier, nous parlions du scandale Windrush, de cette génération Windrush, scandale qui touche des milliers de Britanniques privés de leur nationalité. Marcus, bonjour.
Bonjour Madame Hartmann.
Bonjour.
Bonjour aux auditeurs.
Bonjour Monsieur Marcus. Vous vouliez faire le lien, oui, je crois, avec la question du Bumidome. Rappelez-nous ce qu'était le Bumidome.
En fait, effectivement, je suis adoré par le Bumidome.
Ouais.
Effectivement, le Bumidome est un bureau d'immigration pour la jeunesse des Antilles qui arrivait à un moment, dans les années 60, la France avait besoin ça augmente beaucoup de là des années 60. Parce que la plupart des usines qui faisaient du travail pour les habitants, pour la jeunesse, se fermait. Donc, et la France avait besoin de main-d'œuvre pour pouvoir se remettre en état après la Seconde Guerre mondiale, d'où on a fait amener des gens pour faire beaucoup que ne faisaient pas les Français à l'époque. Donc, je suis arrivé effectivement pour le Bindom et je vais vous dire, j'étais venu pour faire un stage de formation haute couture. Eh? J'étais de la couture. Dès mon bien, je suis arrivé pour le Bindom. C'est un billet à l'essai qu'on vous donne. Et d'un côté, vous partez dans l'espoir de dire que vous allez travailler pour découvrir autre chose, mais en même temps de vous faire un avenir. C'est tout à fait logique. Parce que comme on dit, celui qui traverse les eaux doit un but. Et ce qu'il y a, le fait que je suis arrivé ici, et au moment où je vais entrer en formation, une semaine avant, on m'appelle, je viens au bureau du Midom, c'était au métro sur Morland, et on me dit que la formation que je devais faire, je pourrais la faire. Et qu'est-ce qu'on m'a envoyé? On m'a envoyé en cuisine. Donc, j'ai passé ma formation de cuisinier, bon pâtissier, cuisinier, pâtissier. J'ai eu mon diplôme. Mais après, les difficultés, je ne vous dis pas, madame. J'ai dû, pour pouvoir sortir, pour finir par un billet de retour, aller même à faire du marteau plein en plein Paris en hiver. À faire même.
C'est-à-dire que le Bindom qui vous avait garanti déjà, d'une part, propose une formation dans la couture, la haute couture, n'a pas tenu en tout cas son engagement puisque vous êtes retrouvé en cuisine. En plus, issu de cette formation, il n'y avait pas forcément de travail, c'est ça?
Effectivement, parce que bon, ce qu'il y a, le problème qu'il y a, c'est que bon, je ne veux pas dire la situation, mais quand vous voyez le type de son, c'était bloqué. Mais je vais monter au cas de l'affaire risque anglophone. C'est-à-dire, la plupart des pays anglophones de la Caraïbe, l'Angleterre les avait dit, ils ont été bonnes. Cette Angleterre qui, elle aussi, avait besoin de main-d'œuvre pour se reconstruire, eh bien, tous les gens qu'ils ont pris et qu'ils ont amenés ici ne devaient pas être arrivés comme incognito. Donc, il y a quelque chose que dans l'histoire, les Européens, les Occidentaux, d'autant plus. Je dirais la France encore, et peut-être l'Angleterre, ont quelque chose qui est leur histoire. Ils ne le reconnaissent pas. Mais on ne peut pas dire que les anglophones qui sont partis d'un bateau pour venir pour reconstruire la France et le temps ne soient pas en compte. Et qu'après 7 décennies, qu'on dise que les gens n'ont pas une nationalité telle qu'aujourd'hui on les chasse. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est inné, la non-connaissance de l'histoire du passé colonial.
Alors, c'est terriblement humain, si vous me permettez de vous reprendre sur ce mot, Marcus, c'est ça, le drame. Vous avez bien fait de souligner qu'effectivement, l'Angleterre avait donné l'indépendance à ses anciennes colonies. Ce n'est pas le cas, finalement, des Dom, ce qui concernait, puisqu'on a fait la comparaison avec le Bumidom et... J'allais soumettre ce fait à votre réflexion, Marcus, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il se trouve quand même que ça ressemble à ce qui s'est passé pendant 400 ans, une sorte de traite négrière, puisque finalement on a été chercher des personnes de ce côté-là, de la Caraïbe, hein, pour venir les faire travailler en Europe. C'est le retour, Marcus, vous voyez ce que je veux dire?
Allô, oui, madame, mais je vais vous dire ce que ça veut dire, qu'on a pu dénommer ce fait de déportation, une déportation par substitution. C'est-à-dire la nuance de ce que c'est rapporté à ces pays et qu'aujourd'hui, on les rejette. Mais madame, je vais vous dire quelque chose. Il y a quelque chose qui m'arrive aujourd'hui. Je suis marié à africaine d'origine sénégalaise. Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que une seule carte d'identité vous permet de vous définir en étant française? C'est juste, si vous me dites quelque chose, je vous apporte.
Je sais pas, c'était quoi la question, Marcus? J'ai pas bien compris. Votre femme est sénégalaise, oui?
Oui, et je l'ai épousée et je suis de faire des démarches pour qu'elle puisse avoir la nationalité française, étant mariée. C'est une dizaine d'années. Et que la question que je vous ai posée, est-ce que vous pensez que vraiment une carte d'identité française permet à un Français de dire qu'il est français?
Bah, si la carte d'identité est valide, a priori oui.
Ah ben madame, il vous manque un élément. Je vais vous dire quelque chose.
Il vous demande l'extrait d'acte de ce truc comme ça, non? Les livrets de famille.
Madame, il vous demande attestation de votre propre nationalité française. Moi, qui suis né en Martinique, après du Jean-Pierre, au tel élément de la maturité, c'est un français.
Oui, vous êtes français, oui.
Je suis français.
C'est l'absurde, c'est ça, c'est ce qu'on vous demande à la préfecture dans le cadre de la demande de nationalisation de votre femme, ça. Hein.
Ben. Donc, ce que les gens pensent, qu'ils se disent qu'ils sont français, qu'ils ont tous les droits, je pense qu'il faudrait qu'ils apprennent à faire des choses qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Mais moi,
on va conclure parce qu'il y a Nicolas Catan qui voudrait parler du Togo et on parlera de Windrush avec Manjou dans quelques instants. Allez-y, concluez, Marcus.
Non, c'était pour vous dire que ça m'a été le fait qu'on m'avait demandé cela parce que je suis né en Argentine, mes parents, mes grands-parents ont été français et que l'histoire de la France a perpétué le thème de la colonisation dans ce département et que du jour au lendemain, on se doit que on était français. Il est français à part entière et je pense que c'est là le problème.
Donc, vous faites bien de le rappeler, merci de le rappeler, Marcus. En effet, on peut interroger sur cette persistance de l'outre-mer en France. Est-ce que l'outre-mer, c'est le département d'outre-mer, hein, font de France un empire colonial? Si vous voulez réagir, 01 55 07 58 00. Merci Marc. On va prendre Nicolas, on reviendra dans quelques instants avec Manjou sur le scandale Windrush. Avant, on va prendre Nicolas qui s'était inscrit pour nous parler du Togo. Bonjour Nicolas.
Bonjour Madame Antoine.
Bien, de votre patience, merci. Les auditeurs vous écoutent. Alors au Togo, où en est-on au Togo concernant le dialogue?
Le dialogue est bloqué, comme tout le monde le sait. Bon, pour l'instant, les médiateurs ont un délai jusqu'au mois de juin pour proposer quelque chose, vu que chacun des deux camps, si on peut le dire, du côté de la coalition comme du côté du pouvoir, sont campés sur la position, à savoir immédiatement ou au pire 2020 pour les uns et pour les autres à 2030, demandant encore pour l'affirmer. Mais Madame Ackman, figurez-vous, ce midi, moi, je préférerais plutôt aborder le problème collé sous un autre angle, peut-être même qu'on parle le moins, c'est-à-dire à propos des otages du régime, c'est-à-dire les gens qu'ils ont emprisonnés, qu'ils ont mis en prison dans le cadre des manifestations, et qui sont dans des conditions inhumaines, qui sont maltraités et puis gardés là-bas sans jugement. Figurez-vous, par exemple, si je prends le cas de nos camarades de Noubweke, et à savoir surtout Joseph Eiza, voilà un père de famille, accusé à raison sur délit d'intention, et parce que soi-disant on a découvert chez lui des jumelles, et que tous les touristes qui y arrivent au Togo en ont, et même à ces Champs-Élysées, ils l'ont pour voir de loin, et que le régime est caractérisé de matériel de guerre, et depuis plus de 6 mois, un cadre de banque qui travaille les chefs projets et à Oura Group. Et pendant 6 mois, sachant très bien que après 6 mois, la loi togolaise autorise quand même à l'employeur de constater la vacance du poste et puis de licencier. Donc, ils ont gardé père de famille sans jugement et en prison comme ça, de sauver de tout. Il y a des maladies qui courent, etc. Et également, Kokoroko, et aussi parce que M. Asiba, qui est directeur d'une structure de l'homme, qui devait passer le 7 pour parler du cas Togo sur les droits de l'homme à Genève en Suisse. Donc, pour le bloquer 2 jours, 3 jours à l'avant, ils l'ont arrêté comme ça, sans convocation, rien du tout. Et après, ils l'ont gardé en prison. Les traitements continuent. Et ce qui m'épate, ce qui m'étonne dans tout ça, là, c'est le silence des bons ou bien des soi-disant bons. Parce que quand vous rencontrez même les gens, ils nous disent « mais c'est pas mal, mais… »
Bon, qui c'est que vous pensez au bon, quand vous dites le silence des soi-disant bons?
Je veux parler de ceux qui se déclarent défenseurs de droits de l'homme, Amnesty, Human Rights…
Alors, Nicolas, c'est intéressant, puisque bon, j'avais préparé un peu l'émission, il y a même la Fédération internationale des droits de l'homme qui a participé le 2 mai, donc c'était il y a 2 jours, hein, à la 62e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et la FIDH a déclaré ceci, qu'elle était particulièrement préoccupée par la situation au Togo, qui n'avait pas alternance, et qu'elle se préoccupait aussi de la situation des prisonniers politiques, Nicolas. Vous voyez que la FIDH s'en occupe.
Madame Atman, et si le problème des prisonniers, au autant que la crise ambiante, tout ça là également, on peut comprendre. Mais là, je vous parle d'un humain où les gens souffrent, que chaque seconde est de trop, et mais que ces personnes, l'étape dans laquelle nous sommes maintenant, on ne peut pas se limiter encore aux déclarations, aux communiqués, mais il faut finalement agir, quoi.
Qu'est-ce que vous attendrez? Alors, quoi, une action ferme de la CEDEAO, c'est ça?
Voilà, la CEDEAO, l'Union européenne, une sanction, pareil, un ultimatum, parce que quand vous arrêtez quelqu'un, au moins, à la fin du garde à vue, soit vous le mettez en examen et qu'il connaît maintenant le dossier, ce pourquoi il a été accusé. Mais ça fait 6 mois que des personnes, et même pour des gens, et on a vu la dernière fois dans le cas des incendies, des gens qui sont en prison gratuitement, sans savoir pourquoi on les accuse, et quand on les libère également, il n'y a pas de mesure d'accompagnement ni d'excuses publiques de la part d'un gouvernement, d'un État soi-disant démocratique. Donc, s'arrêter pour ces comportements, collaborer avec ces mêmes personnes et nous dire qu'on est en démocratie, c'est pour ça que j'utilise le terme soi-disant bon, parce que...
Oui, Nicolas, il n'y a que ceux qui le disent, qui le croient, que le taux est en démocratie. Ça n'impressionne personne ce que vous dénoncez, les conditions arbitraires de la justice arbitraire est connue de beaucoup de monde. Voilà.
Oui, je comprends. Voilà, on n'a pas. Et également, ce que je veux que les gens comprennent également, le taux ici, quand il y a une prison ici, les gens vont. Parce que bon, incarcérés, etc. Mais les prisons du Togo, comme les hôpitaux, ce sont des bars. Les prisons qui n'ont pas si je dois même des chambres qui n'ont même pas toit. Et donc, quand il y a le sort, ils n'ont pas de sanitaire, rien du tout, il n'y a pas...
On sait comment fonctionnent les prisons, parfois, en Afrique, Nicolas, en effet, hein,
voilà,
on connaît les conditions.
Pour les autres, je ne peux pas parler, mais pour le Togo, comparé aux prisons en France, ou, etc., donc,
c'est très grave.
Et voilà.
On a bien compris, Nicolas, je vous remercie beaucoup. Merci, je vous remercie beaucoup Nicolas de nous avoir appelé. Je regarde un peu mon chronomètre, c'est pour ça que je vous coupe un peu brutalement, de nous avoir parlé des prisonniers politiques au Togo. La DH aussi dénonce la présence de milices, d'hommes cagoulés qui sèment la terreur. Merci beaucoup Nicolas. On va accélérer un peu, vous m'excuserez, dans ma gestion aléatoire du temps. On va écouter Hosanna. Hosanna, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie et bonjour à vos millions d'auditeurs.
Bonjour Hosanna, je ne sais pas si vous êtes des millions à l'écoute, vous me faites penser qu'il y a un truc à dire avant la fin de l'émission Hosanna. De quoi voulez-vous parler Hosanna?
Oui, moi je voudrais parler dans la libre antenne aujourd'hui de la Guinée quoi.
Allez-y, vous pouvez, on vous écoute.
Oui, le problème, surtout l'affaire Bolloré. Et vraiment ça m'amuse quand j'ai appris Chelsea. Le président Alpha Condé, le président du Guinée, dire qu'il va lui aussi porter plainte devant la justice française dans l'affaire Bolloré. Et donc, pourtant, avant, il y a une déclaration de ces mêmes autorités guinéennes qui dit que la Guinée va coopérer avec la justice française. Alors, je me demande pas de revirement. C'est une fuite à l'avance du président Condé.
Alpha Condé, effectivement, n'a été pas très content. Il a apparemment critiqué la presse et il a même annoncé une plainte pour dénonciation calomnieuse.
Oui, c'est ça. Et ce que je me demande, cette plainte serait contre qui? Contre qui, vraiment?
Contre les journaux qui ont relayé les accusations.
Donc, moi, je pense que à travers cette plainte boycottée, les enquêtes en cours, pour que la vérité ne s'éclate pas au grand jour. Sinon, il doit attendre plus que son pays commence avec l'affaire qu'il y a actuellement. Si on doit porter une deuxième peine, je pense que ça n'a pas l'air. Donc, il doit vraiment se ressaisir et puis vraiment chercher où préparer ses armements pour aller se prendre. Sinon, porter une autre peine, je pense que c'est que ce don cœur. Et comme il serait vraiment assis ici, il ne fait pas quelque chose, il serait vraiment humilié ou vraiment exposé, il veut à travers. À travers cette plainte, annuler les choses ou camper. Donc, je pense que c'est inutile, quoi. Il doit se ressaisir.
Il doit sortir, vous nous dites. Hosanna, vous savez, on voit ça aussi du côté du Togo. On avait dit, on a reçu cette semaine notre antenne, Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique du Togo, qui disait que le gouvernement n'était pas concerné. Il était d'ailleurs un peu gêné de s'exprimer. Et dans le même temps, le Togo se dit surpris à collaborer avec la justice française. Merci Hosanna, du côté de Djamena. Bonne journée à Djamena. On va écouter Manjou. Manjou, bonjour.
Et bonjour, moi.
Bonjour Manjou, vous vouliez revenir sur le... Merci de votre patience d'une. Et vous vouliez revenir sur le sujet d'hier, c'est ça, sur le scandale Windrush dont on a parlé avec Marcus. Là.
parler. En fait, comme je dis, c'est la montée du populisme en Europe. Hier, vous avez expliqué, vous avez cette démarche a été entreprise en 2012. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qui était au pouvoir à ce moment. En 2012, vous avez dit.
Oui. Au Royaume-Uni, c'est en 2012, oui.
Ouais, Cameron.
Oui, vous vous rappelez mieux que moi, tout à fait.
Et c'est ce même qui a conduit l'Angleterre au Brexit, vous vous rappelez? Donc tout ça, pourquoi? Parce que le nationalisme...
Lui était plutôt contre Cameron, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a démissionné son poste de premier ministre, il me semble.
Il est contraint de démissionner parce que le Brexit a rapporté, ce n'était pas son souhait. Voilà. Parce que sinon, il avait suggéré au peuple britannique, pourquoi si le relis va mettre ses référendums en place, pourquoi le faire?
Oui,
c'était pas pour draguer le populisme.
Tout à fait. C'est vrai.
C'est ce qu'a fait le produit l'Angleterre au Brexit. Et c'est cette dame qui est là, je crois qu'il mène la même politique. En fait, quand l'Angleterre, c'est tout ce qu'on se dit la vérité. Ils aiment dire l'immigration au mar. Prenons le cas de la France. La décharge des nationalités, c'est la politique que c'est là. C'est, sauf qu'on ne l'appelle pas de la même manière. Sur la France, ça a proposé la déchéance.
Oui, non, mais la déchéance de la nationalité, c'était pas des lois migratoires, c'était des lois sécuritaires. Normalement, c'est pour lutter contre le terrorisme. Bien que le terrorisme.
Pourquoi mettre dans le même calendrier qu'un mec qui se boule des explosifs et se faire exploser? Pourquoi me mettre dans la même calendrier? Ça ne pose pas que les touristes, la déchéance de la nationalité.
Vous dites finalement utiliser la loi de la déchéance de la nationalité pour faire des lois migratoires.
Sécuritaire, ça n'a rien à voir. Et regarde, même tout récemment, Gérard Collomb, qui est ministre d'Emmanuel Macron. Vous avez vu la loi asile immigration de Gérard Collomb? Pourtant, cette loi a été approuvée par Marine Le Pen, par le Front National.
Alors, moi, j'ai du mal à avoir votre opinion là-dessus. Du coup, est-ce que vous êtes d'accord? Vous comprenez ras-le-bol des petits européens? Ou il y a quand même une sorte d'aberration, puisqu'on rappelait tout à l'heure avec Marcus, on a quand même des gens, quand il a fallu reconstruire l'Europe, on a fait venir les politiques-là, ces États-là européens, ont fait venir des migrants.
Et aujourd'hui, ils n'en ont pas besoin, justement. Parce que sûrement, il y a un tas de choses...
Donc pour vous, vous comprenez ça?
Je comprends, mais non, d'accord. Je comprends là, lui. Mais de l'autre côté, il range aussi chez les autres.
Non, parce mais je comprends. Vous
oubliez. Parce que vous n'allez pas foutre des autres chez les gens et vous dites non, restez chez vous, ne venez pas. Non. Moi, s'il y a des lois chez moi, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si votre confrère, excusez-moi de faire la pub, il fait une tribune lorsqu'il parle de la politique de défense. Il parle de quoi? C'est qu'il y a de l'immigration, on est submergé par-ci, par-là.
C'est pas parce qu'il dit ça que c'est vrai. Hein.
Madame, pourquoi l'immigration est adoptée par ma femme et approuvée par les frontières de la droite? Dites-moi.
Madame, dites-moi, Manjou, je ne sais pas.
Parce qu'il y a les populismes. Il y a les populismes. Tout récemment, on a vu la génération identitaire qui s'est permis d'aller barrage aux gens. Ça n'a pas été condamné. Mais par contre, il y a un groupe de disant humanitaire qui ont dit non à cet acte-là et ils ont été condamnés. Vous trouvez alors, si vous dites que les nationalistes aujourd'hui en Europe, c'est partout, ils ne veulent plus de nous. On en parle pour l'Angleterre, il n'y a pas que l'Angleterre, même la France, c'est pareil.
On pourrait même dire, Manjou, je vais vous remercier que le nationalisme et le populisme dépassent même les frontières de l'Europe.
C'est aux États-Unis, mais en Europe aussi, c'est plus. Parce que dans tous les États, là, on voit les élections, les nationalistes ont toujours été dans les différents pays. Ouais. Donc ça dit beaucoup de choses. Moi, pas de souci. S'il veut quoi, sinon on rentre. Mais qui reste les deux autres, ils ont foutu, tout simplement.
C'est très clair. Merci, Manjou. Merci beaucoup de votre intervention. Manjou, on arrive bientôt à la fin de cette libre antenne. Il y a Jérôme qui peut nous parler de la Côte d'Ivoire et on finira avec Bram si on a le temps. Jérôme, bonjour.
Bonjour, Annie.
Bonjour, Jérôme. Merci de votre patience.
Oui, j'ai venu sur la déclaration du président qui disait que les Ivoiriens pour rentrer au pays pour apporter les Ivoiriens qui sont à l'étranger suite au conflit électoral peuvent rentrer
en exil,
au pays. Voilà, peuvent rentrer au pays pour apporter leur pied à l'édifice. Et j'ai écouté aussi un de vos auditeurs qui disait que ces gens-là sont mariés à des belles femmes. Et franchement, ça, c'est vraiment terrible que quelqu'un puisse penser comme ça. Quand les gens vivent l'exil, c'est une chose très dure, abandonner les siens, abandonner ses biens, abandonner tout ce qu'on a pour vivre, changer des forces. Et cet auditeur disait qu'ils sont mariés à belles femmes. Ça, c'est très... Nous avons un effet du gouvernement et qui fait que les gens rentrent au pays et ils les mettent en prison. Nous avons déjà des listes modérées qui sont rentrés au pays, se retrouvent aujourd'hui en prison. Et ceux qui ont été emprisonnés depuis le conflit ivoirien ne sont pas jugés et ne sont pas libérés. Alors, de là à encore dire aux gens qui peuvent rentrer au pays, franchement, ça c'est vraiment de l'ironie.
Et c'est d'autant que le pouvoir en Côte d'Ivoire refuse les rapports des ONG de parler de politique. D'ailleurs, pour compléter votre propos, Jérôme, Monsieur Ouattara a eu cette parole durant l'élection. Il dit ne vous inquiétez pas, c'est quand les jugements sont terminés que le président peut faire usage d'un projet de loi d'amnistie. Vous pouvez me faire confiance, ce sera fait le moment venu. Vous votons déjà l'amnistie et on rentrera ensuite
voilà.
Si on veut.
Voilà. Et là, à partir de ce moment, les gens peuvent rentrer au pays, ils ne peuvent pas rentrer comme chaque fois qu'on trouve en prison. La MACA est devenue maintenant un siège d'opposants, c'est devenu internat pour les opposants, c'est très grave. En plus, ils ne sont pas jugés.
Merci Jérôme, merci de nous avoir parlé de ce sujet. Merci de votre appel. Je vous souhaite un bon week-end. Bonne journée Jérôme. On ferme Bramé. Bonjour Bramé. Vous allez avoir une petite minute. Séance okay. Maintenant. Bonjour. Okay,
bonjour Madame Arpan. Bonjour, c'est l'auditrice d'Afrique numéro 1. Moi, je voulais parler aujourd'hui sur la Syrie. Donc, la Syrie, on parle trop peu. Or que c'est très important de parler de la Syrie, car la situation de Syrie, donc quand j'ai entendu sur la radio Africa numéro 1 que la Syrie, c'est vous qui l'avez dit, les Occidentaux, ils ont raison d'aller bombarder la Syrie.
Je veux pas dire ça.
Donc vraiment, ça m'a beaucoup choqué ces propos.
Non, je veux pas dire ça, Bramé.
Si, vous avez dit ça, vous avez dit que...
Il y avait des preuves que le Macron reconnaissait que des attaques chimiques avaient eu lieu en Syrie et que c'est pour ça qu'ils allaient bombarder. Dramé, je suis désolée, on arrive à la fin de cette émission. Mais par contre, n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes sûr de participer parce que comme ça, ça peut-être facilitera le débat. Inscrivez-vous en laissant un message sur le répondeur ou en envoyant un mail jda@africa1.com. Je dois vous dire quelque chose aussi. J'ai reçu hier, jeudi 3 mai, un prix Mondi Press 2018 récompensant la journaliste animatrice de l'année. Je voulais surtout vous remercier, vous, chers auditeurs, pour ce prix. Voilà, c'est un peu vous qui l'avez gagné, ce prix. J'ai beaucoup pensé à vous et voilà, cette émission ne serait absolument rien sans vous. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'appelle le journal des auditeurs. Voilà, je voulais vous rendre hommage à tous et à toutes qui nous écoutez. C'est donc la fin de cette émission. Elle sera rediffusée ce soir à 19h20. Merci encore de votre écoute et de votre participation. Rendez-vous lundi pour une nouvelle édition du JDA. Nous parlerons du Forum des diasporas africaines, justement. En attendant de vous retrouver lundi, je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute des programmes d'Africa numéro 1, la seule radio africaine.